Europe Midi. Thierry Dagiral.
Bonjour à tous, bienvenue. Il est midi et demi.
Je vais oublier le Covid hein, parce que je serai au grand air et puis peut-être qu'il va commencer à faire beau. Là, ils ont l'air de dire, même s'il y a un petit peu de passage nuageux, ça va être un beau mois d'août.
C'est la quille, les vacances, les grands départs du monde dans les gares, sur les routes et dans les aéroports. Point complet dès le début de ce journal. Reconfinement à La Réunion et à la Martinique, situation compliquée en métropole, notamment dans le Grand Est, où l'hôpital de Strasbourg commence à saturer. L'invité d'Europe Midi sera la directrice générale de l'Agence régionale de santé Grand Est. L'économie française qui reprend des couleurs malgré la pandémie, on a renoué avec la croissance, explication à suivre. Et puis entre joie et déception, Teddy Riner obtient la médaille de bronze en judo, quatrième médaille pour l'athlète chouchou des Français.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Ça y est, c'est le gros week-end de l'année, c'est le fameux chassé-croisé de l'été. Vous serez nombreux dans les gares, près d'un million de passagers attendus. Il y a déjà beaucoup de monde à la mi-journée à la gare Montparnasse. Où vous vous trouvez, Zoé Palier?
Oui, dans chaque recoin de la gare, des voyageurs patientent, parfois assis sur leur valise. Ils s'agglutinent sous les grands panneaux d'affichage, comme Catherine, bien équipée pour sa randonnée à travers les Pyrénées.
J'ai ma tente, mon duvet, des habits de rechange, voilà, je suis prête. Je vais oublier le Covid hein, parce que je serai au grand air et puis peut-être qu'il va commencer à faire beau. Là, ils ont l'air de dire, même s'il y a un petit peu de passage nuageux, ça va être un beau mois d'août.
Elles aussi attendent devant le quai Stéphanie et sa fille Mila. Direction Brest pour elles et un beau programme à l'arrivée.
J'attends du repos, profiter de ma fille, du temps ensemble au bord de la mer.
Aller faire de l'escalade.
C'est sûr que là, il était temps de faire une pause et de voilà pour mieux reprendre à la rentrée. Mais
Vous partez combien de temps?
Là, j'ai 3 semaines de vacances. 6 mois, ce serait l'idéal, mais ça n'est pas possible.
Et puis, il y a quand même quelques mines tristes aussi dans la gare, celle des juilletistes. Yanis et Chloé rentrent de colo. Quelques grains de sable dans les chaussures et des bibelots plein la valise.
C'est toujours un peu triste, c'est toujours un peu... On verse des petites larmes au départ, quoi.
Comme ça s'est passé super vite, on n'a pas eu le temps de trop profiter. Tout ce qu'on sait, c'est que l'année prochaine, du coup, on se retrouve tous ensemble dans la même colo la prochaine fois, quoi.
Voilà, et puis aussi parmi ceux que j'ai croisés ce matin, il y avait des voyageurs qui ont pris leur billet à la dernière minute pour échapper quelques jours au moins au mois d'août à Paris.
Merci beaucoup Zoé Palier en direct de la gare Montparnasse à Paris. Sur les routes, vous serez également bien sûr très nombreux. Samedi noir dans le sens des départs, circulation qui sera difficile dès cet après-midi. Thibaut Hue.
Oui, ça bouchonne déjà un peu. Attention en direction de la Méditerranée. L'autoroute A7 entre Lyon et Marseille est déjà bien chargée. Ça coince aussi près d'Avignon et Aix-en-Provence. Pour les vacanciers qui rejoignent le sud-ouest, prudence également. L'A10 aux abords de Bordeaux commence à saturer et ça ne va pas s'arranger. Et puis en région parisienne, déjà une centaine de kilomètres de ralentissement. Ça pourrait bien se gâter en fin de journée. Il est encore temps de prendre la route pour éviter les bouchons.
Et Thibaut, pour ce week-end, le programme n'est pas vraiment réjouissant. Hein.
Et non, c'est le traditionnel chassé-croisé entre les juilletistes et les haussiens. Le week-end le plus chargé de l'année sur la route. Demain, on devra encore dépasser les 1000 km de bouchons cumulés. La journée est classée noire pour la première fois de l'été. Bison Futé recommande de partir très tôt le matin pour éviter d'être bloqué. Dimanche, il y aura toujours beaucoup de monde. Un drapeau orange dans les deux sens de circulation. Et même lundi, la journée est classée orange pour les départ, il va donc falloir s'armer de patience et de vigilance, bien sûr.
Bonne route à tous, prudence en effet. Thibaut Hue, et puis dans les aéroports du monde également, 80 000 passagers par jour à Roissy, 22 000 à Orly, beaucoup de vols vendus à la dernière minute. Alors bien sûr, c'est le sujet numéro un et c'est la principale préoccupation pour ceux qui partent. Le temps record de pluie en juillet et les prévisions ne sont pas folichonnes jusqu'à la mi-août. Bonjour Patrick Gallois.
Bonjour.
Vous êtes prévisionniste à Météo France. Que se passe-t-il? Pourquoi le temps est si détraqué? Ça fait longtemps qu'on n'avait pas connu un été, en tout cas un mois de juillet aussi mauvais, on va dire.
Effectivement, on sort de 6 mois de juillet, hein, de 2015 à 2020, qui était plutôt chaud, sec et ensoleillé. Et là, bah, effectivement, il y a un retour de bâton avec ce mois de juillet qui présente un excédent de pluie de 50% à l'échelle du territoire. Et notamment dans l'est du pays, où on a parfois une pluviométrie record dans des villes comme Belfort, Nancy ou Mâcon, parfois 2 à 3 fois la normale de pluie. Bah, c'est simplement la variabilité naturelle de notre climat qui fait que les étés ne sont pas toujours chaud et ensoleillé, et heureusement d'ailleurs, sinon ce ne serait pas un climat tempéré. On a parfois des étés beaucoup plus mitigés, avec des séquences perturbées, mais il faut bien voir que si on prend l'été météorologique, nous on fait commencer l'été le 1er juin, il y a eu quand même des séquences de beau temps. Alors on l'a oublié, mais la première quinzaine de juin a été chaude et ensoleillée. Et puis on a eu une séquence de 10 jours de beau temps au mois de juillet, à peu près entre le 15 et le 24 juillet. Donc le temps n'a pas toujours été uniformément maussade sur le pays tout au long de l'été 2021.
Patrick Gallois, ceux qui nous écoutent et qui partent en vacances, ça restera mitigé dans les premiers jours d'août, avec des températures assez basses pour la saison. Attention, c'est important ce que vous allez nous dire.
Oui, si je veux jouer la provocation, je vais même dire que le temps va s'aggraver les prochains jours, hein, puisqu'on s'attend à un week-end particulièrement maussade, avec des températures en baisse. Par exemple, demain, on sera parfois 8 degrés en dessous de la normale dans le sud-ouest du pays, avec une vingtaine de degrés à Toulouse, alors qu'on devra approcher les 30 degrés à cette époque de l'année. Hein. Donc on est vraiment au cœur de l'été, avec tout cela, avec bien sûr des nuages, des averses, des orages qui vont circuler entre le sud-ouest, le massif central et les Alpes, ce sera un peu moins plombé ailleurs. On aura aussi encore des averses dimanche dans le nord et l'est du pays, un peu plus de soleil en allant vers l'Atlantique et vers la Méditerranée où le vent va se lever, mais tout cela dans la fraîcheur. Une fraîcheur qui va persister les premiers jours du mois d'août. En fait, la première semaine d'août semble bien compromise, avec donc toujours ces passages pluvieux et de la fraîcheur assez marquée sur le pays. On peut espérer un changement de temps après le 10 août, mais pour l'instant, aucune certitude à ce niveau-là, c'est encore assez loin. Mais tout ce qu'on peut dire, c'est que l'été n'a pas dit son dernier mot.
On l'espère, merci. Je vous dis quand même merci Patrick Gallois de Météo France. On reviendra bien sûr sur la météo avec Marlène Duret à la fin de ce journal. Les JO à présent, c'est l'autre info de cette matinée. Une médaille de bronze il y a quelques minutes pour Teddy Riner. Déception bien sûr pour l'athlète, mais 4 participations aux JO et 4 médailles.
J'ai été longtemps sur les premières marches du podium. Aujourd'hui, voilà, j'ai voulu venir sur ces Jeux pour répondre à des questions, me dire est-ce que je vais pouvoir remporter un troisième titre. Aujourd'hui, c'est pas passé. Il reste Paris 2024 et surtout, il reste demain. Si demain, on arrive à prendre par équipe l'or olympique, eh ben voilà. Je serai trois fois champion olympique.
Voilà, Teddy Riner avec nos confrères de France Télévisions, du bronze également pour la jeune française Romane Dicot. On va rejoindre tout de suite Julien Froment. Julien, vous êtes au siège du PSG Judo, le club de ces deux athlètes. Entre joie et légère déception, j'imagine.
Effectivement, vous parlez de la déception pour Teddy Riner, mais il faut surtout retenir, comme lui l'a dit, cette 4e médaille olympique remportée consécutivement. Jamel Bourras est président du PSG Judo.
On sait que ça joue à rien déjà à ce niveau-là, le judo, pour tout le monde. À un moment donné, on est dans un combat, une erreur, une fraction de seconde, et on est à terre et c'est fini. Donc, arriver à gagner énormément de titres comme ça pendant longtemps et être au-dessus, c'est déjà exceptionnel.
Alors la déception de Teddy Riner contraste, vous l'entendez, avec la fierté du clan Romane Dicot. À peine 21 ans, premiers Jeux Olympiques et première médaille en bronze, effusion de joie donc au siège du PSG. Quand elle a battu la judoka turque, victoire synonyme de médaille de bronze, sa maman Charlotte, très émue à notre micro.
Oh là là, c'est génial, c'est magnifique, il n'y a pas de mots. Félicitations Romane, bravo ma fille. On est trop contents. C'est top, c'est juste premier JO et ramène, c'est pas rien. Médaille au JO, quoi. Pour moi, c'est comme si c'était l'or.
Et peut-être des émotions supplémentaires pour la maman de Romane Dicot, puisque demain, Romane Dicot et Teddy Riner seront en lice pour repartir avec une médaille d'or olympique grâce à l'épreuve par équipe.
Merci Julien Froment, en direct de la Factory, le siège du PSG Judo. Bonjour Axel May.
Bonjour.
Axel, heureusement qu'il y a eu ces médailles parce que la matinée a été plutôt compliquée pour les Français.
Alors surtout en BMX, sur 7 concurrents engagés dans la finale masculine, il y avait 3 Français, donc statistiquement des chances de podium. Ouais. Finalement, l'ancien champion du monde Sylvain André a terminé 4e, Romain Maillot 6e et la star Joris Daudet a chuté. Bref, 0 pointé. Déception aussi en épée. L'équipe de France masculine était tenante du titre, mais Yannick Borel, Romain Canon et Alexandre Bardonnay ont été sortis d'entrée de jeu par d'inattendus Japonais qui sont d'ailleurs en ce moment même en train de disputer la finale olympique. En match de classement, les Bleus ont fini 5e. Jamais depuis les Jeux de Barcelone en 92, les épéistes n'étaient revenus sans médaille par équipe. En revanche, un coin de ciel bleu En athlétisme, Alexis Fellu a créé la surprise en se qualifiant pour la finale du 3000 mètres steeple qui aura lieu lundi. Et puis ajoutons qu'en basket, après avoir été surprise par les Japonaises, les joueuses de Valérie Garnier conservent toutes leurs chances de qualification pour les quarts de finale. Elles ont battu tout à l'heure le Nigeria de 25 points, 87-62.
Et puis Axel, grosse surprise en tennis avec l'élimination de Djokovic.
Ouais, Novak Djokovic ne ramènera pas lors de Tokyo. Le numéro 1 mondial serbe a été battu en demi-finale par l'Allemand Alexander Zverev. 1-6, 6-3, 6-1. Djoko, hein, comme on le surnomme, avait un break d'avance dans le deuxième set avant de voir Zverev inverser la tendance. Djoko qui a gagné l'US Open, qui a gagné Roland Garros et qui a gagné Wimbledon cette année, visé en plus l'or olympique, ce ne sera pas pour cette fois.
Axel May du service des sports d'Europe 1 et puis bien sûr à 13h votre rendez-vous avec le Club Tokyo et Simon Rubin.
Europe Midi, Thierry Dagiral.
12h40 à suivre, la situation sanitaire dans le Grand Est, les hôpitaux sont dans le rouge et puis l'économie française qui repart dans le vert. A tout de suite.
Europe 1, Thierry Dagiral.
La situation sanitaire à présent, vous le savez, la Réunion et la Martinique vont être reconfinées. L'armée va être dépêchée en Martinique. 40 à 50 spécialistes militaires médicaux vont se rendre sur place. Trois premiers patients de Fort-de-France seront transférés demain à Paris à cause des hôpitaux déjà saturés en Outre-mer. En métropole, c'est l'Est de la France qui préoccupe les autorités, notamment le Bas-Rhin, qui enregistre le taux d'incidence le plus fort, 157 cas pour 100 000 habitants. Et là encore, cela commence sérieusement à se faire sentir dans les hôpitaux. À Strasbourg, le nombre de malades admis a quasiment été multiplié par 7 en 2 semaines. Le reportage de Mélina Fachin.
Mi-juillet encore, seules 2 personnes atteintes du Covid étaient soignées aux hôpitaux universitaires de Strasbourg. Désormais, on en est à 14, dont 4 en réanimation. La situation reste donc encore gérable, mais ne présage rien de bon. Nicolas Lefebvre, chef du service des maladies infectieuses.
On a l'impression de voir l'orage arriver. En ce moment, on voit des patients jeunes, plutôt sans comorbidité, mais surtout ce qu'il faut noter, c'est que aucun des patients hospitalisés actuellement n'était vacciné.
L'hôpital est déjà sous tension puisqu'une bonne partie des soignants est en vacances et Sandrine Knöckert, secrétaire générale de Sud Santé, appréhende beaucoup la rentrée.
Ça présage la 4e vague, hein, on l'attend, avec pas plus de moyens qu'avant, pas plus de personnel, pas plus d'ouverture de lit et des agents qui sont fatigués. Je ne pense pas que 15 jours de congé annuel consécutif, les agents vont être reposés. Et les semaines à venir ne seront pas mieux pour eux, hein, ça c'est clair.
Sans parler de la pression que ressentent certains face à l'obligation de se faire vacciner au plus tard le 15 septembre, au risque de voir leur contrat de travail et leur salaire suspendu. Strasbourg, Mélina Fachin, Europe 1.
Et puis la situation dans le Grand Est, on va continuer à en parler après le journal avec mon invité, la directrice générale de l'Agence régionale de santé du Grand Est, Virginie Quéré. 12h43, cela s'est passé la nuit dernière à Beauvais. Une jeune femme de 18 ans a été violemment agressée par un homme de 21 ans qui lui a foncé dessus avec sa voiture. La jeune fille est grièvement blessée. Une enquête pour tentative de meurtre a été ouverte. Gladys Laffitte, les deux jeunes gens se connaissaient.
Ah oui, même si l'enquête devra déterminer la nature exacte de leur relation. Selon les premiers éléments, le jeune homme de 21 ans serait le meilleur ami de l'ex-compagnon de la victime. Il serait en fait amoureux d'elle depuis des années, mais les sentiments ne seraient pas partagés. En tout cas, une violente dispute a éclaté entre eux cette nuit, vers 4h du matin, alors qu'il la raccompagnait après une soirée alcoolisée, hein, où ils auraient aussi consommé des stupéfiants. Et selon les témoins, il aurait d'abord poussé la jeune femme avec sa voiture avant de partir, de faire demi-tour et de la percuté violemment. La victime de 18 ans a ensuite été traînée au sol sur quelques mètres. Alors ses jours ne sont pas en danger, mais elle est polytraumatisée. L'agresseur a lui été interpellé. Il n'est pas connu des services de police ni de justice. Il est toujours en garde à vue à l'heure actuelle pour tentative de meurtre.
Gladys Laffitte du service police-justice d'Europe. L'économie française est en forme contre toute attente et surtout malgré les inquiétudes suscitées par la 4e vague de l'épidémie. Emmanuel Dutheil, la France a renoué avec la croissance au 2e trimestre.
Oui, et même très très nettement, puisque le PIB a progressé de 0,9% au 2e trimestre. Alors dit comme ça, on peut dire que ce n'est pas grand-chose, mais je peux dire que c'est un rebond quand même assez massif et surtout, ça nous permet de nous rapprocher des niveaux d'avant-crise, puisque même si notre niveau de richesse est encore inférieur de 3,3% à notre niveau d'avant-crise, l'écart se réduit. Alors pourquoi ça se réduit ? Parce qu'on a recommencé à consommer en ce printemps avec la réouverture des restaurants et la levée des confinements. La consommation repart très fort dans la restauration. On a aussi recommencé à se déplacer. Bon, on est encore très loin de nos niveaux de consommation d'avant-crise, mais on voit véritablement un rebond. La bonne nouvelle vient de ce que l'on appelle l'investissement. C'est-à-dire, par exemple, des entreprises qui achètent une nouvelle machine. Là, on retrouve même les niveaux d'avant-crise. C'est toujours compliqué pour notre commerce extérieur. On continue d'importer plus que nous exportons. Sans surprise, on importe par exemple beaucoup de produits pharmaceutiques en ce moment. En revanche, solide trimestre renforce les espoirs d'une croissance forte pour cette année. Le gouvernement table toujours sur 6%, si bien sûr le variant Delta ne vient pas tout détraquer.
Merci Emmanuel Dutheil, chef du service économie d'Europe 1. L'allocation de rentrée scolaire sera versée cette année le 3 août à Mayotte et à La Réunion, le 17 août dans le reste de l'Outre-mer et en métropole. Cela concerne environ 3 millions de familles et 5 millions d'enfants. Et puis notez que le couple Macron est arrivé en fin de matinée au fort de Brégançon pour les vacances dans le Var. Allez, je vous propose de la musique pour terminer. 5 ans après son décès, le chanteur Prince est toujours bien présent avec un nouvel album posthume inédit qui sort aujourd'hui même. Welcome to America, un album très politique, Angèle Châtelier.
Les chansons qui composent l'album Welcome to America de Prince devaient sortir en 2010 et elles illustrent toutes les interrogations du chanteur autour de son pays et de ses mutations. Bienvenue en Amérique où vous pouvez échouer dans votre travail, être licencié, réembauché et obtenir un pourboire de 700 milliards de dollars, chante-t-il ici. Get fired, rehired and get a $700 billion tip. Come on in, sit right down. Ces chansons devaient sortir après sa tournée appelée Welcome to America, justement. Mais Prince avait abandonné l'idée, comme de nombreuses autres choses. Selon le Prince Estate, le site officiel du chanteur, il resterait encore tellement d'ébauches d'enregistrements ou de titres jamais exhumés dans les tiroirs qu'un album inédit par an pourrait sortir sur les 20 prochaines années. Car Prince a laissé à sa mort un véritable coffre-fort, une pièce géante appelée The Vault. Ce nouvel album, Welcome to America, donc, n'est qu'une infime partie d'un immense héritage que l'un des rois de la pop nous a laissé.
Le dernier album posthume de Prince, Angèle Châtelier du service culture d'Europe 1. Il nous reste à voir le temps. Bonjour Marlène Duré.
Bonjour Thierry.
Orage, au désespoir.
Et oui, ce sont les orages qui se trouvent à l'avant d'une petite perturbation qui a traversé le quart nord-ouest. Des averses orageuses qui vont continuer leur route en se renforçant. Alors ça va concerner la région Auvergne-Rhône-Alpes, la Franche-Comté, la Saône-et-Loire, une partie de la Provence-Alpes-Côte d'Azur, la partie alpine. Hein, avec notamment de gros orages entre le Lyonnais et les Savoies. Donc c'est une petite rectification par rapport à la prévision d'hier. Ils seront un peu plus costauds que ce qu'on avait prévu. Donc à l'arrière, je le disais, donc de la perturbation, retour donc d'un temps plus calme sur la partie nord-ouest avec du vent à signaler quand même du côté du Nord-Pas-de-Calais, des pointes à 90 km/h. On est influencé par la tempête Evert présente sur les îles britanniques. Quant à la petite perturbation en elle-même, allez, grosso modo, elle s'étend de l'Aquitaine à la Champagne. Et les températures, eh bien écoutez, ça reste frais, elles vont encore baisser demain. Tiens, je regardais. Donc, compteur général 18 à 21 degrés près de la Manche, 20 à 25 en général avec 24 à Paris. Ça reste encore pas mal près de la frontière allemande et en Rhône-Alpes, 24 à 29, et puis comptez 29 à 32 dans le sud-est, jusqu'à 34 même dans le Var.
Merci Marlène. Prochain point, bien sûr, dans le journal de 13h.
Midi, Thierry Dagiral.
Restez avec nous dans un instant, mon invité, la directrice générale de l'Agence régionale de santé Grand Est, Virginie Quéré. A tout de suite. 12h50, mon invité, la directrice générale de l'Agence régionale de santé du Grand Est. Bonjour Virginie Quéré.
Bonjour.
Merci d'être avec nous dans Europe Midi. On va commencer par un point de situation. Le taux d'incidence moyen de la région Grand Est est de 104 pour 100 000 habitants contre 189 au niveau national, avec des disparités bien sûr départementales de 157 dans le Bas-Rhin à 29 dans les Ardennes. Pourquoi c'est une situation qui vous inquiète ? On a vu des taux d'incidence finalement beaucoup plus élevés par le passé.
Oui, effectivement, la situation nous inquiète. Elle est suivie de près parce qu'on est dans une phase d'augmentation rapide de ces taux d'incidence. Vous évoquiez le taux de 209. On est aujourd'hui sur, avec un jour de plus en semaine glissante, à 116, même 117 nouveaux cas pour 100 000 habitants. Donc, ces taux d'incidence augmentent rapidement et nous devons de nouveau agir pour essayer de limiter cette progression. Et puis peut-être dire qu'il y a deux caractéristiques qui effectivement ne nous surprennent pas mais qui doivent nous rendre vigilants. C'est la forte incidence que vous évoquez sur les territoires qui sont les plus peuplés. Mmh. Donc pour le Grand Est, dans les grandes villes, Strasbourg, Mulhouse, Nancy ou Metz. Et puis une incidence très forte à 370 pour 100 000 habitants sur la population des 20-29 ans. Mmh. Donc une population dans laquelle on sait que le virus circule activement.
Les hospitalisations ont augmenté de 33% en une semaine, un variant Delta qui représente plus de 80% des cas de contamination. Quelle est la situation, on l'entendait dans le journal de 12h30, pardonnez-moi, la situation dans les hôpitaux?
Oui, alors la pression hospitalière, elle reste faible en nombre. C'est ce que disaient d'ailleurs effectivement vos intervenants dans le journal. Mais là encore, on assiste à une hausse que vous évoquez, une hausse des hospitalisations. Plutôt une stabilité encore des entrées en réanimation, mais avec des flux d'entrées qui nous inquiètent pour la suite. Alors, ce qui nous rassure peut-être quand même dans cette situation, c'est que à ce jour, les personnes qui sont hospitalisées sont des personnes qui ne sont pas vaccinées. Donc, la vaccination a un effet très positif.
Donc, il n'y a pas de vacciné. Il n'y a pas de vacciné en réanimation, hein. C'est ce que vous nous dites.
Non. Donc voilà. Donc ça nous rassure. Ça veut dire que la politique de vaccination fonctionne. Mais aujourd'hui, les projections qui commencent à être produites par l'Institut Pasteur notamment montrent que la rentrée de septembre à l'hôpital risque d'être une période de forte tension.
Et Virginie Quéré, face à cette aggravation de la situation, la préfecture a imposé mardi un nouveau tour de vis, imposant de nouveau le port de masque dans tous les lieux publics fermés, interdisant la consommation et la vente d'alcool sur la voie publique à Strasbourg. Interdire l'alcool sur la voie publique, ça va faire reculer l'incidence?
Alors oui, pour casser la tendance, clairement, on a plusieurs leviers. Le premier, c'est celui-là. C'est d'abord la vigilance, la responsabilité individuelle sur les gestes barrières. Ce sont les mesures qu'on connaît depuis maintenant de longs mois. Voilà, il faut les appliquer. C'est un moyen de réduire la circulation du virus tout de suite, et notamment de ce virus très contagieux. Mmh. Ensuite, je rappelle qu'il faut se faire tester quand on a des symptômes. On a un peu perdu ces réflexes de test. Donc vraiment, là aussi, une vigilance. Il y a des tests à disposition. Il faut se faire tester quand on est symptomatique. Et puis, le dernier, vous le savez, hein, c'est la vaccination. Elle agit à un peu plus long terme, puisqu'il faut se faire vacciner deux fois dans un délai de 3 semaines. Mais ça, c'est l'objectif qu'on poursuit pour une rentrée sereine cette fois.
Lors d'une conférence de presse, la préfète du Bas-Rhin a annoncé une possible nouvelle fermeture des bars et restaurants qui pourraient fermer à minuit en plein mois d'août, en pleine vacances, au moment où les Français se relâchent. Est-ce que c'est raisonnable? Est-ce que c'est compliqué à faire appliquer et à faire comprendre?
Alors, je crois qu'il faut, c'est ce qu'elle a dit aussi, hein, elle en appelle avant tout à la vigilance et à la responsabilité individuelle. Je l'ai dit, je pense qu'il faut faire preuve de discernement. Dans les endroits où il y a beaucoup de monde, il faut respecter les gestes barrières. On n'a pas d'autre solution aujourd'hui pour limiter la circulation du virus.
En avril dernier, nous étions à 7600 personnes en soins critiques dans les hôpitaux, 32 000 hospitalisations. Aujourd'hui, nous sommes à 950 personnes en soins critiques, 7000 hospitalisations. Est-ce que fermer les bars à minuit, vraiment, ça va changer la donne?
En fait, ce qu'il faut aujourd'hui bien comprendre, c'est l'impact de la circulation de l'épidémie. On se retrouve finalement dans une situation qui est comparable à celle de la fin de l'été dernier, où le virus circule fortement. Et donc, vous avez de plus en plus de chances de rencontrer ce virus et d'être contaminé. Donc, il faut qu'on évite de rencontrer ce virus, parce qu'on sait que ça aura, dans 3 semaines, dans un mois, un impact majeur sur les hospitalisations.
On l'entend bien, pour freiner l'évolution, la campagne vaccinale va s'intensifier dans les 15 jours qui viennent. Avec combien de doses qui vont arriver chez vous? 25 000, 30 000, c'est ça?
Alors non, du coup, ça c'est à l'échelle simplement du territoire alsacien. En fait, on a sur les 15 jours, donc cette semaine et la semaine prochaine, environ 670 000 nouvelles vaccinations qui sont possibles.
D'accord.
Donc 670 000 nouvelles personnes qui peuvent se faire vacciner. Mmh. Une partie des rendez-vous, bien sûr, sont déjà pris, mais on a vraiment de la capacité à faire. Et peut-être ce qui est intéressant aussi à noter, c'est que les jeunes se font vacciner, puisque plus de la moitié des créneaux qui ont été réservés sur ces 15 jours, donc plus de la moitié de ces créneaux concernent des moins de 35 ans. Donc on a une demande importante des jeunes pour la vaccination et on l'encourage vraiment vivement.
Virginie Carré, dernier point, on a l'impression que c'est la double peine finalement pour les vaccinés. Emmanuel Macron avait déclaré que les mesures ne les concerneraient pas et finalement c'est eux qui les subissent aussi.
Alors, les vaccinés aujourd'hui vont pouvoir profiter du pass vaccinal. Effectivement, dans certains endroits, et notamment en intérieur, le respect des gestes barrières doit être maintenu, notamment parce que ce virus est très contagieux. Donc, voilà, je pense qu'il faut, et chacun est vigilant et responsable aujourd'hui. Et quand vous déambulez dans les grandes villes du territoire, vous voyez que dans les lieux de forte concentration ou de fort regroupement de personnes, les gens portent le masque.
Virginie Kéré, directrice générale de l'ARS Grand Est. Grand merci à vous, madame. Merci beaucoup.
Merci.
Europe Midi, Thierry Dagiral.
Dans quelques secondes, le journal de 13h, puis Club Tokyo. Bonjour Simon Rubin.
Bonjour.
On va parler bien sûr de Teddy.
Eh oui, Teddy Riner, médaillé de bronze. La nuit était cauchemardesque, mais la matinée s'est finalement bien terminée pour lui. Pour Roman Dico aussi, on fera le point sur le classement, les médailles françaises.
À tout de suite Simon. Bel après-midi à tous. On se retrouve ce soir à 18h. À tout à l'heure.